Marcof le Malouin, deuxième partie, chapitre 4. La fidélité. Vers la fin de 1773, un des riches armateurs de la Bretagne, qui avait perdu successivement 7 navires, tous pris et coulés par les navires musulmans qui sillonnaient la Méditerranée depuis des siècles, eut le désir bien légitime de venger ses désastres. De plus, le digne négociant pensa avec raison que voler des voleurs était une œuvre pie. Pirater des pirates serait une action bien plus méritoire encore, puisqu'elle aurait le double avantage de leur prendre ce qu'ils avaient pris et de les punir ensuite. En conséquence, il fit construire, à Lorient, un charmant brick savamment gréé, élancé de carène, propre à donner la chasse, et qui portait dans son entrepont 20 jolis canons de 12. Le brick, une fois lancé et prêt à prendre la mer, fut baptisé sous le nom de la Félicité, et on obtint du ministre des Lettres de marque. Et on obtint du ministre des lettres de marque pour le capitaine qui le commanderait. C'était ce capitaine qu'il s'agissait de trouver. Il faut dire qu'à cette époque, vivait à Brest un officier de marine nommé Charles Cornic. Charles Cornic était né à Morlaix et était un émule des Jambard et des Duguay-Trouin. Malheureusement pour lui, Cornic était aussi ce que l'on nommait alors un officier bleu. Pour comprendre la valeur négative de ce titre, il faut savoir qu'à l'époque dont nous parlons, le corps des officiers de marine se divisait en deux catégories bien tranchées, les officiers nobles d'une part et les officiers sans naissance de l'autre. Ces derniers étaient en butte continuellement aux vexations des premiers, qui non seulement refusaient souvent de leur obéir, mais encore ne voulaient pas toujours les prendre sous leurs ordres. Et cependant, pour de simples matelots devenir officiers, il fallait avoir fait preuve d'un courage et d'une habileté bien rares. Mais le préjugé était là, comme une barrière infranchissable. Et les parvenus, les intrus, comme on les nommait aussi, se voyaient toujours l'objet des risées des élégants gentilshommes. Cornic, surtout, était presque un objet d'horreur parmi les officiers nobles. Brave, fier, hautain, il répondait par le mépris aux provocations. Et lorsqu'on le contraignait à mettre l'épée à la main, il revenait à son bord en laissant un cadavre derrière lui. Deux fois, le ministre avait voulu lui donner un commandement. Et deux fois, il s'était vu contraint par le corps des gentilshommes de le lui retirer. Fatigué de prodiguer son sang et son intelligence, blessé dans son orgueil et déçu dans ses légitimes espérances, Cornic, alors, avait abandonné la marine royale et avait accepté le commandement d'un petit corsaire. Il courut les mers des Indes faire la chasse à tout ce qui portait un pavillon ennemi. Un jour, après un combat sanglant, il s'empara d'une frégate anglaise de guerre, à bord de laquelle il y avait 6 officiers de la marine française prisonniers. Tous les 6 étaient nobles. Tous les 6 étaient connus de Cornic, qu'ils avaient toujours repoussé. Grand fut leur désappointement de devoir la liberté à un officier bleu. Cornic, pour toute vengeance, leur demanda avec ironie un très humble pardon de les avoir délivrés, ajoutant que c'était trop d'honneur pour lui, pauvre officier de fortune, d'avoir châtié des Anglais qui avaient eu l'audace de faire prisonnier des gentilshommes français, marins comme lui. Puis il les ramena à Brest sans leur avoir adressé la parole pendant tout le temps que dura la traversée. Une fois à terre, l'aventure se répandit à la grande gloire du corsaire et à la profonde humiliation des officiers nobles. Aussi jurèrent-ils d'en tirer une vengeance éclatante. Quelques jours après, Cornic reçut, dans la même matinée, 8 provocations différentes. Il fixa le même jour et la même heure à ses 8 adversaires. Puis, une fois sur le terrain, il mit l'épée à la main et les blessa successivement tous les 8. Ce duel eut un retentissement énorme. Les familles des blessés portèrent plainte, et quoique l'officier bleu eût combattu loyalement, il se vit contraint de s'éloigner de Brest. Ce fut sur ces entrefaites que l'armateur de la Félicité s'adressa à lui et lui proposa le commandement du nouveau corsaire. Cornic accepta. Seulement, il mit pour condition qu'il prendrait un second à sa guise. Et comme il était lié avec Marcof, il lui demanda s'il voulait embarquer à bord du corsaire. Marcof remercia chaleureusement Cornic et signa l'engagement avec une ardeur impatiente. Tous deux, alors, composèrent un équipage de 150 hommes, tous dignes de combattre sous de tels chefs. Puis la Félicité prit la mer. Le nouveau corsaire avait pour mission de louvoyer sur les côtes d'Afrique, mais de ne donner la chasse aux pirates qu'autant que ces derniers, par leur ventre arrondi et leurs lourdes allures, indiqueraient qu'ils avaient dans leurs flancs la cargaison de quelques riches navires de commerce. Les débuts de la Félicité furent brillants. En quittant le détroit de Gibraltar et en entrant dans la Méditerranée, le brick, déguisé en bâtiment marchand, se laissa donner la chasse par un pirate algérien. Puis, lorsque les deux navires furent presque bord à bord, la toile peinte qui masquait les sabords de la Félicité tomba subitement à la mer et une grêle de boulets balaya le pont du pirate stupéfait. Moins d'une heure après, la cargaison du navire algérien passait dans la cale du corsaire. Les pirates étaient pendus au bout des vergues et le vautour, devenu victime de l'épervier, coulait bas aux yeux des marins français, qui dansaient joyeusement en poussant des cris de triomphe. 6 mois plus tard, la Félicité rentrait à Brest et Cornic remettait entre les mains de son armateur pour près de 5 millions de diamants et de marchandises de toute espèce. On procéda alors à la répartition de ces richesses. Marcof emporta 200 000 livres. Le soir même, il montait dans une chaise de poste et, précédé d'un courrier, il prenait avec fracas la route de Paris. Il avait compris que Brest était une trop petite ville pour pouvoir y dépenser rapidement son or. Il voulait connaître toutes les merveilles de la capitale et se procurer toutes les jouissances que rêvait son ardente imagination. Pendant 4 mois, il gaspilla follement cet or, gagné au prix de sa vie. Pendant 4 mois, il mena cette existence curieuse du marin grand seigneur, qui n'admet aucun obstacle pour son plaisir, satisfait toutes ses fantaisies et brise ce qui s'oppose à ses volontés et à ses caprices. Ce temps écoulé, Marcof s'aperçut un beau matin que son portefeuille était vide et sa bourse à peu près à sec. Il reprit philosophiquement la route de Brest et il arriva au moment où Cornic réengageait un nouvel équipage et s'apprêtait à reprendre la mer. Marcof le suivit de nouveau. Comme la première fois, la Félicité mit le cap sur la Méditerranée. Et comme la première fois encore, elle ouvrit la campagne sous les plus heureux auspices. Le corsaire avait déjà fait amener pavillon à 2 pirates de l'archipel grec. et se disposait à continuer ses courses sur le littoral de l'Afrique, lorsqu'à la hauteur de Malte, il fut assailli par une tempête qui le rejeta entre les côtes d'Italie et celles de Sardaigne. Pendant les 3 premiers jours, la Félicité tint bravement contre le vent et les vagues. Mais vers le commencement du 4e, elle se démata de son misaine et une voie d'eau se déclara dans sa cale. La tempête ne ralentissait pas de fureur. Cornic essaya de gagner la côte. Ce fut en vain. Les pompes ne suffisaient plus à alléger le navire de l'eau qui montait de minute en minute. Il fallut abandonner le brick. Les deux canots qui n'avaient pas été brisés ou entraînés par les lames furent mis à la mer. L'équipage se sépara en deux parties. La première, commandée par Cornick, monta dans l'une des embarcations. La seconde, ayant pour chef Marcof, se jeta dans l'autre. Durant quelques heures, les deux canots firent route de conserve. Mais la tempête les sépara bientôt. Celui de Cornick put atteindre Naples et s'y réfugier. Celui de Marcof fut moins heureux. Entraîné vers la haute mer, il doubla la Sicile. Pendant 3 jours, la frêle barque fut ballottée au gré des flots. N'ayant pas eu le temps d'emporter des vivres, les pauvres naufragés mouraient de fatigue et de faim. Déjà, on parlait de tirer au sort et de sacrifier une victime pour essayer de sauver ceux qui survivraient. Lorsque, la nuit suivante, le canot fut jeté sur les côtes de la Calabre méridionale et se brisa sur les rochers. À l'exception de Marcof, tous les marins périrent. Seul, il parvint à gagner la plage. Une fois en sûreté sur la terre ferme, les forces l'abandonnèrent et il tomba évanoui. Combien de temps dura cet évanouissement ? Marcof l'ignora toujours. Lorsqu'il reprit ses sens, il se trouvait au milieu d'une vaste salle meublée, ou plutôt démeublée, comme le sont d'ordinaire les hôtelleries italiennes. Il faisait grand jour. Les rayons de l'ardent soleil des Calabres, perçant les couches épaisses de poussière qui encrassaient les vitres des croisées, se ruait dans la pièce en l'inondant d'un flot de lumière dorée. Autour de Marcof se tenaient, dans des attitudes différentes, une quinzaine d'hommes à figure sinistre, à costume indescriptible, tenant le milieu entre celui du montagnard et celui du soldat. Les uns appuyés sur de longues carabines, les autres chantant ou causant. Tous buvant à plein verre le vin blanc capiteux des coteaux de la Sicile, ce Marsala dont on a à peine l'idée dans les autres contrées de l'Europe, car il perd tout son arôme en subissant un transport lointain. Marcof, en ouvrant les yeux, fit un léger mouvement. « Eh bien, Pietro ?» demanda l'un de ceux qui étaient debout en s'adressant à un jeune homme assis près du marin. « Eh bien, capitaine, je crois que le noyé n'est pas mort. »« Sainte Madone, il peut se vanter d'avoir la vie dure et il devra bien des cierges à son patron. »« Tenez, voici qu'il remue !» Marcof, en effet, se dressait sur son séant. La conversation qui précède avait eu lieu en patois napolitain. Marcof, en sa qualité de navigateur, avait une légère teinture de toutes les langues qui se parlent sur les côtes, et depuis surtout les courses de la félicité dans la Méditerranée, il avait appris assez d'italien pour comprendre les paroles qui se prononçaient, et au besoin même pour converser avec les hommes auprès desquels il se trouvait. Celui qu'on avait qualifié de capitaine s'avança gravement vers le naufragé. « Comment te trouves-tu ? » lui demanda-t-il. « Je n'en sais trop rien, » répondit naïvement Marcof, qui, le corps brisé et la tête vide, était effectivement incapable de constater l'état de santé dans lequel il était. « D'où viens-tu ? » « De la mer. » « Par Saint-Janvier, je le sais bien, puisque nous t'avons trouvé évanoui sur la plage. Ce n'est pas cela que je te demande. Tu es français ? » ?»«
Oui. »
« Et marin ? » ?»«
Oui. »
Ton navire a donc fait naufrage ?
Oui,
répondit une troisième fois Marcof, incapable de prononcer un mot plus long. Tu es laconique, fit observer son interlocuteur d'un air mécontent. Marcof fit un effort et rassembla ses forces. Il y a 3 jours que je n'ai mangé, balbutia-t-il. Par grâce, donnez-moi à boire. « Je meurs de faim, de soif et de fatigue. » Le jeune homme qui le veillait parut ému. « Tenez, » fit-il vivement en lui offrant une gourde, « buvez d'abord, je vais vous donner à manger. » Marcof prit la gourde et la porta avidement à ses lèvres. Le capitaine appela Pietro. « Nous retournons à la montagne, » lui dit-il. « Tu vas rester près de cet homme. Demain, nous reviendrons, et s'il le veut, nous l'enrôlerons parmi nous. Il paraît vigoureux, ce sera une bonne recrue. » Quelques instants après, on servait à Marcof un mauvais dîner, et on lui donnait ensuite un lit plus mauvais encore. Mais, dans la position où se trouvait le marin, on n'a pas le droit d'être bien difficile. Il mangea avec avidité et dormit 15 heures consécutives. À son réveil, il se sentit frais et dispos. Pietro était près de lui. Il entama la conversation. Le jeune Calabrais était bavard, comme la plupart de ses compatriotes. Il parla longtemps, et Marcof apprit qu'il avait été recueilli par une de ces bandes si redoutées de bandits des Abruzzes. N'ayant rien sur lui qui pût tenter la cupidité de ces hommes, il reçut cette confidence avec le plus grand calme. Dans la journée, les bandits de la veille revinrent dans l'hôtellerie. Le chef, qui se nommait Gavaccioli, proposa sans préambule à Marcof de s'enrégimenter sous ses ordres, lui vantant la grâce et les séductions de l'État. Marcof hésitait. Ce mot de bandit sonnait désagréablement à ses oreilles. Mais, d'un autre côté, il réfléchissait qu'il se trouvait sur une terre étrangère, sans aucun moyen d'existence. Son navire était perdu, ses compagnons avaient tous péri. Quelles ressources lui restaient-ils ? Aucune. Gavaccioli renouvela ses offres, Marcof n'hésita plus. « J'accepte, dit-il, à une condition. « Laquelle ? C'est que je serai entièrement libre de ma volonté quant à ce qui concernera mon séjour parmi vous. »« Accordé, fit le bandit en souriant, tandis qu'il murmurait à part. « Une fois avec nous, tu y resteras. Et si tu veux fuir, une balle dans la tête nous répondra de ta discrétion. » Marcof fut présenté officiellement à la bande et accueilli avec acclamation. Pietro, surtout, paraissait des plus joyeux. Marcof lui en demanda la cause. « Je l'ignore, répondit le jeune homme, mais dès que je vous ai vu rouvrir les yeux hier, cela m'a fait plaisir. Il me semblait que vous étiez pour moi un ancien camarade. « Allons, murmura Marcof, il y a de bonnes natures partout. » Le soir même, il y eut festin dans l'hôtellerie, et Marcof en eut les honneurs. Chacun fêtait la nouvelle recrue, dont les membres athlétiques indiquaient la force peu commune et inspiraient la crainte à défaut de la sympathie. Le lendemain, au point du jour, Marcof, devenu bandit calabrais, s'enfonçait dans la montagne en compagnie de ses nouveaux camarades. En acceptant les propositions de Gavaccioli, le marin avait songé qu'il pourrait promptement gagner Naples ou Reggio, et de là, s'embarquer pour la France. Il était trop bon matelot pour se trouver embarrassé dans un port de mer, quel qu'il fût. Chapitre 5. Les Calabres. 15 jours après, Marcof parcourait, la carabine au poing et la cartouchière au côté, les routes rocheuses des Abruzzes. Les bandits calabrais étaient alors en guerre ouverte avec les troupes régulières du roi de Naples. 12 heures se passaient rarement sans voir livrer quelques combats, plus ou moins meurtriers. Cette existence aventureuse ne déplaisait pas aux marins, qui trouvaient constamment à faire preuve d'adresse, de courage et d'intrépidité. Bientôt, ses compagnons reconnurent en lui un homme supérieur. Il acquit ainsi une sorte de supériorité morale, et son nom, répété avec éloge, était connu dans la montagne pour celui d'un combattant intrépide. Pietro lui avait bien décidément voué une amitié véritable. Il en faisait preuve en toutes circonstances. Au reste, cette amitié s'était encore accrue de ce que, dans 2 combats successifs, Marcof avait arraché Pietro des mains des carabiniers royaux et des gardes suisses. Or, être prisonnier des troupes napolitaines se résumait pour tout bandit dans une prompte et haute pendaison. Marcof, en réalité, avait donc 2 fois sauvé la vie au jeune homme. Aussi l'amitié de Pietro s'était-elle peu à peu transformée en véritable adoration. Marcof était son dieu. Bientôt, les troupes royales, lassées par cette guerre dans laquelle elles trouvaient rarement un ennemi à combattre, mais où elles étaient sans cesse harcelées, se replièrent sur Naples. Puis elles rentrèrent dans la ville et laissèrent, comme par le passé, les Abruzzes et les Calabres sous la souveraineté des brigands. Alors ceux-ci retournèrent à leurs anciennes habitudes. Les embuscades, le pillage, le vol, l'assassinat devinrent le but de leurs travaux. Mais lorsqu'au lieu de combattre vaillamment des hommes armés, il fallut attaquer, assassiner et voler des êtres sans défense, tuer lâchement des femmes qui demandaient inutilement merci, égorger d'une main ferme de faibles enfants qui tendaient leurs petits bras avec des cris et des larmes, Marcof sentit tout ce qu'il y avait de noble dans sa nature se révolter en lui. À la première expédition de ce genre, il brisa sa carabine contre un rocher. À la seconde, il refusa nettement d'accompagner les bandits. Gavaccioli, étonné, lui commanda impérativement d'obéir. Marcof lui répondit qu'il n'était ni un lâche ni un infâme, et que s'il allait avec les brigands s'embusquer sur le passage des chaises de poste et des mulets, ce serait non pour attaquer les voyageurs, mais bien pour les défendre. « Rappelle-toi, ajouta-t-il avec énergie, que j'ai été corsaire et non pirate, que je sais me battre et non pas assassiner. J'ai honte et horreur de demeurer plus longtemps parmi des êtres de l'espèce de ceux qui m'entourent. Demain je partirai. » « Tu insultes tes amis ? » s'écria le chef avec colère. « Tu m'insultes toi-même en supposant que ces hommes me soient quelque chose. » À ces mots, prononcés à voix haute, des rumeurs et des cris menaçants s'élevèrent de toutes parts. Quelques-uns des bandits portèrent la main à leur poignard. Marcof leva la tête, croisa ses bras nerveux sur sa vaste poitrine et marcha droit vers le groupe le plus menaçant. En présence de cette contenance froide et calme, les bandits se turent. Marcof revint vers le chef. « Tu m'as entendu, » dit-il. « Demain soir même je partirai. Jusque-là, je ne t'obéirai plus. » Puis il s'éloigna à pas lents, sans daigner tourner la tête. Marcof avait l'habitude de se retirer vers le soir dans une sorte de petit jardin naturel situé au milieu des rochers. Une fontaine voisine, jaillissant d'un bloc de porphyre, entretenait dans ce lieu une fraîcheur agréable. La nature sauvage qui dominait ce site pittoresque en rehaussait encore la beauté. C'était là que, mollement étendu sur son manteau, le marin rêvait à la France, à ses compagnons, à ses combats passés, à son avenir dès qu'il aurait quitté la Calabre. Le jour où lieu la scène dont nous venons de parler, Marcof, suivant sa coutume, s'était dirigé vers le lieu habituel de ses rêveries solitaires. La nuit venue, il prépara ses armes et se disposa à veiller, car il connaissait assez ses compagnons pour se défier d'une attaque. Les premières heures se passèrent dans le calme et dans le silence. Mais au moment où la lune se voilait sous un nuage, il crut percevoir un léger bruit dans le feuillage. Il écouta attentivement. Le bruit devint plus distinct. Il résultait évidemment d'un corps rampant sur les rochers. Était-ce un serpent ? Était-ce un homme ? Marcof prit un pistolet et l'arma froidement. Sans doute, le froissement sec de la batterie avait été entendu de celui qui se glissait ainsi vers le marin, car le bruit cessa tout à coup. Marcof attendit néanmoins, toujours prêt à faire feu. Enfin les branches s'entr'ouvrirent, et une voix amie fit entendre un appel. Marcof avait reconnu Pietro. Le jeune homme s'élança vivement près du marin. « Que me veux-tu donc ? » demanda Marcof, étonné des allures mystérieuses de son fidèle camarade. « Silence ! » fit Pietro à voix basse, et en indiquant du geste à Marcof qu'il parlait trop haut.
« Que me veux-tu ? »
répéta le marin. « Te sauver d'une mort inévitable. Nos compagnons dorment. J'étais de veille cette nuit, et j'ai abandonné mon poste pour te prévenir. Si Gavaccioli s'apercevait de mon absence, il me casserait la tête. Mais comme il s'agissait de toi, j'ai tout bravé. »
« Que se passe-t-il ? Parle vite !»«
Dès que tu fus parti, » dit Pietro avec volubilité et en baissant encore la voix, « tous nos hommes se rassemblèrent. Eux et Cavaccioli étaient furieux de la manière dont tu les avais traités. »«
Que m'importe ? »
interrompit Marcof. « Laisse-moi achever. Ils résolurent de te tuer. »«
Bah, vraiment ! Et qui diable voudra se charger de la commission ?»
demanda le marin avec ironie. « C'est précisément ce choix qui a causé un long débat. »«
Et l'on a décidé ?»«
On a décidé que, connaissant ta force et ton courage à toute épreuve, on aurait recours à la ruse. »«
Les lâches !» murmura Marcof.
« Après, on sait que tu viens tous les soirs à cet endroit, et il a été convenu que demain, 5 de nous te précéderaient, s'embusquerait derrière ce rocher au pied duquel tu te couches, et lorsque tu serais sans défiance, 5 balles de carabine te frapperaient d'un même coup. »
Et quels sont ceux qui doivent prendre part à cette ingénieuse expédition?
Je ne le sais pas encore. Demain, on tirera au sort.
Et tu as risqué ta vie pour venir m'avertir?
J'ai fait ce que je devais. Ne m'as-tu pas 2 fois sauvé de la corde en m'arrachant au carabinier?
Tu as une bonne nature, Pietro, et si tu veux, je t'emmènerai avec moi.
Tu vas partir, n'est-ce pas?
La nuit prochaine.
Quoi? Pas cette nuit?
J'aurai l'air de fuir.
Mais ils te tueront demain.
Ceci est mon affaire.
Songe donc.
J'ai songé,
interrompit Marcof, et mon plan est fait. Ne crains rien. Seulement, sache bien que dans 24 heures, je quitterai la bande de Gavaccioli, et je te propose de venir avec moi.
Je ne puis quitter la montagne.
Pourquoi?
Je suis amoureux d'une jeune fille de Lorenzana, que je dois épouser dans 2 mois. Puis mon père est infirme et a besoin de moi.
Alors quitte ce métier infâme.
Et lequel veux-tu que je fasse? Il n'y en a pas d'autre dans les Calabres.
C'est vrai, répondit Marcof. Puis après un moment de réflexion,
tu es bien décidé? Reprit-il.
Oui, Marcof, répondit Pietro. Seulement je te conjure de partir cette nuit même.
Encore une fois, ne t'inquiète de rien, mon brave. J'ai mon projet.
Maintenant, regagne vite ton poste. Et merci.
Marcof serra vivement la main du jeune homme. Pietro allait s'éloigner.
Encore un mot, cependant, fit le marin en l'arrêtant. Quand et comment les assassins doivent-ils se rendre ici?
Je te l'ai dit, quelques instants avant l'heure où tu as l'habitude d'y venir.
Et ils arriveront tous les 5 ensemble?
Oh non, pas. Pour que tu ne puisses concevoir aucun soupçon, Gavaccioli leur donnera publiquement un ordre différent à chacun. Puis ils arriveront ici, l'un par un sentier, l'autre par une autre voie, de manière à se trouver réunis à l'heure convenue.
Merci, c'est tout ce que je voulais savoir.
Tu n'as plus rien à me demander?
Non.
Alors je retourne à mon poste.
Va, cher ami, mais tâche que le sort ne tombe pas sur toi demain pour faire partie de l'expédition.
Je briserai ma carabine, s'écria Pietro vivement.
Non, mais tu t'arrangerais de façon à arriver le dernier, voilà tout.
Va donc maintenant, et merci encore. Puisque je n'ai rien à redouter pour cette nuit, je vais dormir.
Et Marcof serra de nouveau la main de Pietro. S'étendit sur la terre et s'endormit aussi profondément et aussi tranquillement que lorsqu'il était balancé dans son hamac à bord de la Félicité. Le lendemain, Marcof alla se promener dans la montagne. Il rencontra Gavaccioli et échangea avec lui quelques phrases banales, annonçant, comme toujours, pour la nuit même, le départ dont il avait parlé. Gavaccioli poussa l'amabilité jusqu'à lui proposer un guide et à lui donner un sauf-conduit pour la route. Marcof accepta, lui disant que le soir venu, il lui rappellerait ses promesses. Puis les deux hommes se quittèrent, l'un calme et froid, l'autre aimable et souple, comme tous ses compatriotes lorsqu'ils veulent tromper quelqu'un ou lui tendre une embûche. Marcof continua sa promenade pour s'assurer qu'il n'était ni épié ni suivi. Bien convaincu qu'il était libre de ses mouvements, il prit un sentier détourné et revint promptement à l'endroit où devait s'accomplir le crime projeté contre lui. Sans s'arrêter à la source, il gravit le rocher derrière lequel Pietro l'avait averti que s'embusqueraient les assassins. Puis, profitant d'une large crevasse qui l'abritait à tous les regards, il s'y blottit vivement. À sa droite s'élevait un chêne gigantesque qui, enfonçant ses racines près de la source, étendait ses branches énormes au-dessus des rochers. Marcof posa ses armes contre lui, puis il tira de ses poches une large feuille de papier blanc qu'il plaça sur ses pistolets et un bout de corde d'une vingtaine de pieds de longueur. À l'aide de son couteau, il partagea la corde en 5 parties égales, à chacune desquelles il fit artistement un nœud coulant qu'il maintint ouvert au moyen d'une petite branche. Cela fait, il mit les bouts à portée de sa main, en ayant soin de les séparer les uns des autres. Puis il demeura dans une immobilité complète, toujours caché dans la crevasse du rocher. Il n'attendit pas longtemps. Un bruit de pas retentit à sa gauche. Aussitôt il se replia sur lui-même, dans la position d'un tigre qui va bondir sur sa proie. Et l'œil ardent, la lèvre légèrement crispée, il se prépara à s'élancer en avant. Un bandit, sa carabine armée à la main, parut à l'extrémité du sentier qui aboutissait à la source. Le misérable regarda attentivement autour de lui. Convaincu que l'endroit était désert et que Marcof n'était pas encore arrivé, il se dirigea rapidement vers le rocher et l'escalada avec une agilité d'écureuil. Au moment où il atteignait le sommet, Marcof lui apparut face à face. Le bandit n'eut le temps ni de se servir de sa carabine, ni même de pousser un cri d'alarme. Marcof, l'étreignant à la gorge, l'avait renversé sous lui. Puis, tandis que d'une main de fer il étranglait son ennemi, de l'autre, il attirait à lui une des cordes et la passait autour du cou du brigand, avec une dextérité digne d'un muet du sérail. Alors, se relevant d'un bond, il appuya son pied sur la poitrine du calabrais et tira sur l'extrémité de la corde. Il sentit le corps qu'il foulait frémir dans une suprême convulsion. La face du bandit, déjà empourprée, devint violette et bleuâtre. Les yeux parurent prêts à jaillir hors de la tête. La bouche s'ouvrit démesurément. Enfin, le corps demeura immobile. Marcof le repoussa du pied pour ne pas qu'il gênât ses opérations à venir et reprit sa place dans la crevasse. Ce qu'il avait fait pour le premier, il l'accomplit pour les 4 suivants, de sorte qu'une demi-heure après, il avait 5 cadavres autour de lui. Alors il s'approcha du chêne, passa successivement les cordes autour d'une branche, les y attacha solidement et lança les cordes dans le vide. Les 5 bandits se balançaient dans l'air, au-dessus de l'endroit même où avait coutume de se coucher Marcof. Le marin ouvrit une veine à l'un des pendus, trempa dans le sang noir qui en coula lentement l'extrémité d'un roseau, et prenant la feuille de papier blanc qu'il avait apportée, il traça dessus en lettres énormes « Avis aux lâches ». Puis il se lava les mains dans l'eau pure de la source, reprit ses armes et s'éloigna tranquillement. 5 minutes après, il faisait son entrée au milieu du cercle des brigands, qui, à son aspect, reculèrent muets de surprise et d'épouvante. Ces hommes, convaincus de la mort du marin, crurent à une apparition surnaturelle. Quant à Marcof, il ne se préoccupa pas le moins du monde de l'impression qu'il produisait et marcha droit à Gavaccioli. Arrivé en face du chef, il tira un pistolet de sa ceinture. « Je t'engage, lui dit-il, à ordonner à tes hommes de ne pas faire un geste, car si j'entendais seulement soulever une carabine, je te jure, foi de chrétien, que je te brûlerais la cervelle avant qu'une balle m'eût atteint. » Puis, se retournant à demi, sans cesser d'appuyer le canon de son pistolet sur la poitrine de Gavaccioli, « Vous autres, continua-t-il en s'adressant aux bandits, vous pouvez, si bon vous semble, aller voir ce que sont devenus ceux qui devaient m'assassiner. Mais si vous tenez à la vie de votre capitaine, je vous engage à vous retirer, car j'ai à lui parler seul à seul. » Les brigands, interdits et dominés par l'accent impératif de celui qui leur parlait, se reculèrent à distance respectueuse. Marcof et Gavaccioli demeurèrent seuls.
« Tu veux me tuer ?» demanda le chef en pâlissant.
« Ma foi, non, répondit Marcof, à moins que tu ne m'y contraignes.
Que veux-tu de moi, alors ?
Je veux te faire mes adieux.
Tu pars, donc,
cette nuit même, ainsi que je l'avais annoncé ce matin.
Cela ne se peut pas,
fit Gavaccioli en frappant du pied.
Et pourquoi donc ?
Parce que tu tomberas entre les mains des troupes royales.
Cela me regarde.
Et puis...
Et puis quoi ?
Tu sais nos secrets.
Je ne les révélerai pas.
Tu connais nos points de refuge dans la montagne.
Je ne suis pas un traître. Je les oublierai en vous quittant.
Enfin, pourquoi agir comme tu le fais ?
Parce qu'il me plaît d'agir ainsi.
Qu'as-tu fait de ceux qui t'attendaient ?
Pour me tuer,
interrompit Marcof. Gavaccioli ne répondit pas. « Je les ai pendus, » continua le marin.
« Pendus tous les cinq ?»«
Tous les cinq. »
« À toi seul ?»«
À moi seul. » Gavaccioli regarda fixement son interlocuteur et baissa la tête. Il semblait méditer un projet. Chapitre 6. L'aventurier. « Écoute, » dit le chef. « Jamais je ne me suis trouvé en face d'un homme aussi brave que toi. »«
Parbleu !» répondit Marcof. « Tu n'as vu jusqu'ici que des figures italiennes. Et moi, je suis français. Et qui plus est, breton. »«
Si tu veux demeurer avec nous, j'oublierai tout. Et je te prends pour chef après moi. »«
Inutile de t'en causer, je suis pressé. »«
Adieu, alors. »«
Un instant. »«
Que désires-tu ? »
Que tu tiennes tes promesses.
Tu veux un guide ?
Pietro m'en servira, c'est convenu.
Et ensuite, un sauve-conduit pour tes amis.
Mais, fit le chef en hésitant.
Allons, dépêche,
dit Marcof en lui saisissant le bras.
Gavaccioli s'apprêta à obéir.
Surtout, continua Marcof, pas de signes cabalistiques, pas de mots à double sens.
Que je lise et que je comprenne clairement ce que tu écris, tu entends ?
C'est bien, répondit le bandit en lui tendant le papier. Voici le sauve-conduit que tu m'as demandé. À 30 lieues d'ici environ, tu trouveras la bande de Diego. Sur ma recommandation, il te fournira les moyens d'aller où bon te semblera. Maintenant, tu vas ordonner à tous tes hommes de rester ici. Tu vas y laisser tes armes et tu m'accompagneras jusqu'à la route. Songe bien que je ne te quitte pas et que lors même que je recevrai une balle par derrière, j'aurai encore assez de force pour te poignarder avant de mourir. » Gavaccioli se sentait sous une main de fer. Il fit de point en point ce que lui ordonnait Marcof. Pietro prit les devants et tous trois quittèrent l'endroit où séjournait la bande. Arrivés à une distance convenable, Marcof lâcha Gavaccioli. « Tu es libre maintenant, lui dit-il. Retourne à tes hommes et garde-toi de la potence. » Gavaccioli poussa un soupir de satisfaction et s'éloigna vivement. Le chef des bandits ne se crut en sûreté que lorsqu'il eut rejoint ses compagnons. Quant à Marcof et à Pietro,
ils continuèrent leur route en s'enfonçant dans la partie méridionale de la péninsule italienne. Marcof voulait gagner Reggio. Il savait ce petit port assez commerçant et il espérait y trouver le moyen de passer d'abord en Sicile, puis de là en Espagne et en France. Marcof avait la maladie du pays. Il lui tardait de revoir les côtes brumeuses de la vieille et poétique Bretagne. Tout en cheminant, il parlait à Pietro de Brest, de Lorient, de Roscoff. Le Calabrais l'écoutait. Mais il ne comprenait pas qu'on pût aimer ainsi un pays qui n'était pas chaudement éclairé par ce soleil italien si cher à ceux qui sont nés sous ses rayons ardents. Bref, tout en causant, les voyageurs avançaient sans faire aucune mauvaise rencontre, se dirigeant vers l'endroit où se trouvait la bande de ce Diego, pour lequel Gavaccioli avait donné un sauf-conduit à Marcof. Il leur fallait 3 jours pour franchir la distance. Vers la fin du 3e, Pietro se sépara de son compagnon. Marcof se trouvait alors dans un petit bois touffu, sous les arbres duquel il passa la nuit. À la pointe du jour, il se remit en marche. N'ayant rien à redouter des carabiniers royaux qui ne s'aventuraient pas aussi loin, Marcof quitta la montagne et suivit une sorte de mauvais chemin décoré du titre de « route ». Il marchait depuis 1 heure environ lorsqu'un bruit de fouet et de pas de chevaux retentit derrière lui. Étonné qu'une voiture se hasardât dans un tel pays, Marcof se retourna et attendit. Au bout de quelques minutes, il vit passer une chaise de poste, armoriée, traînée par 4 chevaux, et dans laquelle il distingua 2 jeunes gens et une femme. La femme lui parut toute jeune et fort jolie. Puis Marcof continua sa route. Mais Pietro s'était probablement trompé dans ses calculs, ou Marcof s'était fourvoyé dans les sentiers, car la nuit vint, sans qu'il découvrît ni le vestige d'un gîte quelconque, ni l'ombre d'un être humain quel qu'il fût. « Bah !» se dit-il avec insouciance. « J'ai encore quelques provisions, je vais souper et je coucherai à la belle étoile. Demain, Dieu m'aidera. Pour le présent, il s'agit de découvrir une source, car je me sens la gorge aride et brûlante comme une véritable fournaise de l'enfer. » Marcof fit quelques pas dans l'intérieur des terres et rencontra promptement ce qu'il cherchait. L'endroit dans lequel il pénétra était un délicieux réduit de verdure tout entouré de rosiers sauvages et abrité par des orangers et des chênes séculaires. Au milieu, sur un tapis de gazon dont la couleur eût défié la pureté de l'émeraude, coulait une eau fraîche et limpide sautillant sur des cailloux polis, murmurant harmonieusement ces airs divins composés par la nature. Marcof, charmé et séduit, se laissa aller sur l'herbe tendre, étala devant lui ses provisions frugales et se disposa à faire un véritable repas de sybarite, grâce à la beauté de la salle à manger. Mais au moment où il portait les premières bouchées à ses lèvres, une vive fusillade retentit à une courte distance. Marcof bondit comme mu par un ressort d'acier. Il écouta en se courbant sur le sol. La fusillade continuait et il lui semblait entendre des cris de détresse parvenir jusqu'à lui. Oubliant son dîner et sa fatigue, Marcof visita les amorces de ses pistolets, suspendit sa hache à son poignet droit à l'aide d'une chaînette d'acier et se dirigea rapidement vers l'endroit d'où venait le bruit. La nuit était descendue, jetant son manteau parsemé d'étoiles sur la voûte céleste. Marcof marchait au hasard. 2 fois, il fut obligé de faire un long détour pour tourner un précipice qui ouvrait tout à coup sous ses pieds sa gueule large et béante. La fusillade avait cessé. Mais plus il avançait, et plus les cris devenaient distincts. Puis, à ces cris aigus et désespérés, s'en joignaient d'autres d'un caractère tout différent. C'étaient des éclats de voix, des rires, des chansons. Marcof hâta sa course. Bientôt, il aperçut la lumière de plusieurs torches de résine qui éclairaient un carrefour. Il avança avec précaution. Enfin, il arriva, sans avoir éveillé un moment l'attention des gens qu'il voulait surprendre, jusqu'à un épais massif de jasmin d'où il pouvait voir aisément ce qui se passait dans le carrefour. Il écarta doucement les branches et avança la tête. Un horrible spectacle s'offrit à ses regards. 15 à 20 hommes, qu'à leur costume et à leur physionomie il était facile de reconnaître pour de misérables brigands, étaient les uns accroupis par terre, les autres debout appuyés sur leurs carabines. Ceux qui étaient à terre jouaient au dé et se passaient successivement le cornet. Ceux qui étaient debout, attendant probablement leur tour de prendre part à la partie, les regardaient. Presque tous buvaient dans d'énormes outres qui passaient de main en main et auxquelles chaque bandit donnait une longue et chaleureuse accolade. Près de la moitié de la bande était plongée dans l'ivresse. À quelques pas d'eux, gisaient deux cadavres baignés dans leur sang et transpercés tous deux par la lame d'un poignard. Ces cadavres étaient ceux de deux hommes jeunes et richement vêtus. L'un tenait encore dans sa main crispée un tronçon d'été. L'un tenait encore dans sa main, crispé, un tronçon d'épée. Un peu plus loin, une jeune femme, demi-nue, était attachée au tronc d'un arbre. Enfin, au fond du carrefour, on distinguait une voiture encore attelée. Marcof reconnut du premier coup d'œil la chaise de poste qu'il avait vue passer sur la route. Il ne douta pas que les deux hommes tués ne fussent ceux qui voyageaient en compagnie de la jeune femme, qu'il reconnut également dans la pauvre créature attachée au tronc du chêne. Elle poussait des cris lamentables, dont les bandits ne semblaient nullement se préoccuper. Les postillons qui conduisaient la voiture riaient et jouaient au dé avec les misérables. Comme presque tous les postillons et les aubergistes calabrais, ils étaient membres de la bande des voleurs. Marcof connaissait trop bien les usages de ces messieurs pour ne pas comprendre leur occupation présente. Les bandits avaient trouvé la jeune femme fort belle, et il la jouait froidement au dé. Au point du jour, elle devait être poignardée. Marcof écarta davantage alors les branches et pénétra hardiment dans le carrefour. Il n'avait pas fait 3 pas qu'à un cri poussé par l'un des bandits, 8 ou 10 carabines se dirigèrent vers la poitrine du nouvel arrivant. « Hola !» dit Marcof en relevant les canons des carabines avec le manche de sa hache. « Vous avez une singulière façon, vous autres, d'accueillir les gens qui vous sont recommandés. »«
Qui es-tu ? »
demanda brusquement l'un des hommes. « Tu le sauras tout à l'heure. Ce n'est pas pour vous dire mon nom et vous apprendre mes qualités que je suis venu troubler vos loisirs. »«
Que veux-tu alors ? Parle. »«
Oh, tu es bien pressé. »«
Corps du Christ ! » s'écria le bandit.
« Faut-il t'envoyer une balle dans le crâne pour te délier la langue ?»
« Le moyen ne serait ni nouveau, ni ingénieux, » répondit tranquillement Marcof. « Allons. Allons, ne te mets pas en colère. Tu es fort laid, mis au carreau, quand tu fais la grimace. Tiens, prends ce papier et tâche de lire si tu peux. »
Le bandit, stupéfait d'une pareille audace, étendit machinalement la main pour prendre le sauf-conduit.
« Un instant !» fit Marcof en l'arrêtant.
« Encore ?» hurla le bandit, exaspéré de la froide tranquillité de cet homme, qui ne paraissait nullement intimidé de se trouver entre ses mains. « Écoute donc, il faut s'entendre avant tout. Connais-tu Diego ?»«
Diego ?»«
Oui. »«
C'est moi-même. »«
Ah, c'est toi ?»
En personne.
Alors tu peux prendre connaissance du papier. » Et Marcof le remit au bandit. Celui-ci le déploya, tandis que ses compagnons, moitié curieux, moitié menaçants, entouraient Marcof qui les toisait avec dédain. À peine Diego eut-il parcouru les cris que, se tournant vers le marin, « Tu t'appelles Marcof ?» lui dit-il. « Comme toi, Diego. »« Corps du Christ, je ne m'étonne plus de ton audace. Tu fais partie de la bande de Gavaccioli ?»«
C'est-à-dire que j'ai combattu avec ces hommes, les carabiniers du roi, mais je n'ai jamais fait partie de cette bande d'assassins. »«
Hein ?» fit Diego en se reculant.
« J'ai dit ce que j'ai dit. C'est inutile que je le répète. » Tu m'as demandé si je me nommais Marcof, je t'ai répondu que tel était mon nom. Tu as lu le papier de Gavaccioli. Feras-tu ce qu'il te prie de faire ?
Il te recommande à moi. Tu veux sans doute t'engager sous mes ordres, et comme ta réputation de bravoure m'est connue, je te reçois avec plaisir.
Marcof secoua la tête.
Tu refuses ? Dit Diego étonné.
Sans doute.
Pourquoi ?
Ce n'est pas là ce que je veux.
Et que veux-tu ?
Un guide pour me conduire à Reggio.
Tu quittes les Calabres ?
Oui.
Pour quelle raison ?
Cela ne te regarde pas.
Tu es bien hardi d'oser me parler ainsi.
Je parle comme il me plaît.
Et si je te punissais de ton insolence ?
Je t'en défie.
Oublies-tu que tu es entre mes mains ?
Oublies-tu toi-même que ta vie est entre les miennes ?
Répondit Marcof d'un ton menaçant et en désignant sa hache. Les deux hommes se regardèrent quelques instants au milieu du silence général. Les bandits semblaient ne pas comprendre, tant leur stupéfaction était grande. Marcof reprit.
J'ai quitté Gavaccioli parce que je ne suis ni assez lâche ni assez misérable pour me livrer à un honteux métier. Il a voulu me faire assassiner. J'ai pendu de ma main les 5 drôles qu'il m'avait envoyés. Maintenant, contraint par moi, il m'a remis ce sauf-conduit. Songe à suivre ses instructions, ou sinon, ne t'en prends qu'à toi du sang qui sera versé.
Allons, répondit Diego en souriant. Tu ne fais pas mentir ta réputation d'audace et de bravoure.
Alors, tu vas me donner un guide ?
« Bah, nous parlerons de cela demain, il fera jour. »«
Non pas, je veux en parler sans tarder d'une minute. »«
Allons, tu n'y songes pas, tu es un brave compagnon, ta hardiesse me plaît. Demeure avec nous. Vois, ce soir j'ai fait une riche proie. »
Continua le bandit en désignant du geste les cadavres et la jeune femme.
« Je ne puis t'offrir une part du butin puisque tu es arrivé trop tard pour combattre. » Mais si cette femme te plaît, si tu la trouves belle, je te permets de jouer au dé avec nous.
Et si je la gagne, je l'emmènerai avec moi ?
Non, elle sera poignardée au point du jour. Elle pourrait nous trahir.
Alors je refuse.
Et tu fais bien,
répondit un bandit en s'adressant à Marcof, car je viens de gagner la belle, et je ne suis nullement disposé à la céder à personne. En disant ces mots, le misérable, trébuchant par l'effet de l'ivresse, s'avança vers la victime. Il posa sa main encore ensanglantée sur l'épaule nue de la jeune femme. Au contact de ses doigts grossiers, celle-ci tressaillit. Elle poussa un cri d'horreur, puis, rassemblant ses forces, « Au secours !» murmura-t-elle en français.
« Une Française ?» s'écria Marcof en repoussant rudement le bandit qui allait rouler à quelques pas. « Que personne ne porte la main sur cette femme !»
Chapitre 7 L'inconnu. Chapitre 7 L'inconnu.
« De quoi te mêles-tu ? »
demanda vivement Diego. « De ce qui me convient, » répondit Marcof en se plaçant entre la jeune femme et les misérables qui l'entouraient en tumulte.
« Écarte-toi. Tu as refusé de jouer cette femme, un autre l'a gagnée, elle ne t'appartient pas. »«
Eh bien, que celui qui la veut ose donc venir la chercher. »«
À mort !»
crièrent les bandits furieux de cette atteinte portée à leurs droits.
Écoutez-moi tous, fit le marin, dont la voix habituée à dominer la tempête s'éleva haute et fière au-dessus du tumulte. Écoutez-moi tous. Cette femme est faible et sans défense. La massacrer serait la dernière des lâchetés. La violenter serait la dernière des infamies. Elle est française, comme moi. Je la prends sous ma protection. Malheur à qui l'approcherait. Il y eut parmi les bandits ce moment d'hésitation qui précède les combats. La plupart, avons-nous dit, gisaient ivres-morts et incapables de comprendre ce qui se passait. 10 seulement avaient conservé assez de raison pour opposer une résistance sérieuse à la volonté du marin. Il était aisé de comprendre qu'une scène de carnage allait avoir lieu, et en voyant un seul homme en menacer 10 autres, on pouvait prévoir l'issue de la lutte. Cependant, il y avait tant d'énergie et tant d'audace dans l'œil expressif de Marcof que les brigands n'osaient avancer, sentant bien que le premier qui ferait un pas tomberait mort. Diego s'était mis à l'écart et armait sa carabine. Marcof jetait autour de lui un coup d'œil rapide. Il voyait à l'expression de la physionomie des brigands que le combat était certain. Aussi, voulant avoir l'avantage de l'attaque, il n'attendit pas et bondit sur les misérables. De ses 2 coups de pistolet, il en abattit 2. Cela se passa en moins de temps que nous n'en mettons à l'écrire. Les bandits reculèrent, puis les carabines s'abaissèrent dans la direction de l'ennemi commun. Mais encore sous l'influence du vin sicilien, les Calabrais avaient oublié, dans leur précipitation, de recharger leurs armes dont ils avaient fait usage dans le combat contre les 2 gentilshommes. Les chiens s'abattirent, mais 2 détonations seules firent vibrer les échos de la forêt. Marcof se jeta rapidement à terre et évita facilement le premier feu. Cependant, l'une des 2 balles, tirée plus bas que l'autre, lui effleura l'épaule et lui fit une légère blessure. Alors, le marin poussa un cri tellement puissant que les brigands reculèrent encore. En même temps, il fondit sur eux. Sa hache s'abaissait, se relevait et s'abaissait encore avec la rapidité de la foudre, frappant sans trêve et sans relâche, déployant toute l'agilité et toute la puissance de sa force herculéenne, il s'entoura d'un cercle de morts et de mourants. 3 des bandits étaient étendus à ses pieds, ce qui, joint aux 2 premiers tués des 2 coups de pistolet, faisait 5 hommes hors de combat. La terreur se peignait sur le front des autres. Au reste, c'est à tort que l'on a fait aux bandits calabrais une réputation d'audace et de bravoure qu'ils sont loin de mériter. Ils ne savent pas ce que c'est que d'affronter le péril en face. Ils ignorent le combat à nombre égal. S'ils veulent attaquer 2 voyageurs, ils se mettront 50. Encore s'embusqueront-ils la plupart du temps pour surprendre ceux qu'ils veulent assassiner. Bref, en voyant le carnage que faisait la hache du marin, les bandits commencèrent à lâcher pied. Marcof frappait toujours. Diego avait disparu. Les 3 brigands encore debout, croyant avoir à combattre un des bons... Les 3 brigands encore debout, croyant avoir à combattre un démon invulnérable, ne songèrent plus qu'à fuir. Tous 3 s'échappèrent en prenant des directions différentes. Marcof, entraîné par l'ardeur du carnage, les poursuivit et atteignit un dernier qu'il étendit à ses pieds. Puis, couvert de sang et de poussière, il revint auprès de la jeune femme. Elle était complètement évanouie. Comprenant le danger, car il ne doutait pas du retour des brigands avec des forces nouvelles, Marcof détacha rapidement celle qu'il venait de sauver et l'enleva dans ses bras. Espérant ne pas être éloigné de la mer et se dirigeant d'après les étoiles, il courut vers l'Orient. Toute la nuit, il marcha sans trêve et sans relâche, bravant la fatigue et portant soigneusement son précieux fardeau. Au premier rayon du soleil, il atteignit le sommet d'une petite colline. D'un regard rapide, il embrassa l'horizon. La mer était devant lui. Marcof poussa un cri de joie. En entendant ce cri, La jeune femme rouvrit les yeux. Marcof la déposa sur l'herbe et la contempla quelques moments. C'était une belle et charmante personne, âgée au plus de 18 ans. Ses grands cheveux noirs, dénoués, flottant autour d'elle, faisaient ressortir la blancheur de sa peau, doucement veinée. Elle porta ses deux mains à son front et rejeta ses cheveux en arrière. Puis elle promena autour d'elle ses regards étonnés. Enfin, elle les fixa sur Marcof. Celui-ci lui adressa quelques questions. La jeune fille ne répondit pas. Marcof renouvela ses demandes. Alors elle le regarda encore. Puis ses lèvres s'entr'ouvrirent et elle poussa un éclat de rire effrayant. La malheureuse était devenue folle. Marcof et sa compagne étaient alors en vue d'un petit village situé à l'extrémité de la pointe Stilo, dans le golfe de Tarente. Le marin avait d'abord pensé à laisser la jeune femme à l'endroit où ils étaient arrêtés et à aller lui-même aux informations. Mais, en constatant le triste état dans lequel elle se trouvait, il résolut de ne pas la quitter un seul instant. Comme elle était presque nue, il se dépouilla de son manteau et l'en enveloppa. Elle se laissa faire sans la moindre résistance. Alors il reprit la jeune femme dans ses bras et se dirigea vers le village. Au moment où il allait atteindre les premières cabanes, il aperçut sur la grève un pêcheur en train d'armer sa barque. Changeant aussitôt de résolution, il appela cet homme. Le pêcheur vint à lui. « Tu vas mettre à la mer ?» lui demanda Marcof, qui, pendant son séjour dans les montagnes, s'était familiarisé avec le rude patois du pays, au point de le parler couramment. « Oui, » répondit le pêcheur. « Où vas-tu ? » « Dans le détroit de Messine. » « Où comptes-tu relâcher en premier ?»« À Catane. » « Veux-tu nous prendre à ton bord, cette jeune femme et moi ?»«
Je veux bien, si vous payez généreusement. »
« J'ai 3 sequins dans ma bourse. Je t'en donnerai 2 pour le passage. »«
Embarquez alors. »
La traversée fut courte et heureuse. En touchant à Catane, Marcof conduisit sa compagne dans une auberge et s'informa d'un médecin. On lui indiqua le meilleur docteur de la ville. Marcof le pria de venir visiter la jeune femme. Et après une consultation longue, le médecin déclara que la pauvre enfant était folle et qu'il fallait lui faire suivre un traitement en règle. Encore le médecin ajouta-t-il qu'il ne répondait de rien. Marcof ne possédait plus qu'un sequin. Il raconta sa triste situation au docteur. « Mon ami, lui dit celui-ci, je ne suis pas assez riche pour soigner chez moi cette jeune femme, mais je puis vous donner une lettre pour l'un de mes confrères de Messine. Il dirige l'hôpital des fous et il y recevra celle dont vous prenez soin si charitablement. » Marcof accepta la lettre, partit pour Messine, et, grâce à la recommandation du médecin de Catane, il vit sa protégée installée à l'hospice des aliénés. Mais le voyage terminé, il ne lui restait pas 2 paoli. « Excellent cœur !» dit la religieuse en interrompant le marquis. « Oui, Marcof est une noble nature !» répondit Philippe de Locronan.
« Ah, ouais !»
Mais le voyage terminé, il ne lui restait pas 2 paoli. Excellent cœur, dit la religieuse en interrompant le marquis. Oui, Marcof est une noble nature, répondit Philippe de Locronan. C'est une âme grande et généreuse, forte dans l'adversité, toujours prête à protéger les faibles. Et cette jeune femme, quel était son nom ?
Marcof ne l'a jamais su. Elle avait été complètement dépouillée par les bandits. Rien sur elle ne pouvait indiquer son origine, et son état de santé ne lui permettait de donner aucun renseignement à cet égard. La seule remarque que fit mon frère fut que le mouchoir brodé que la pauvre folle portait à la main était marqué d'un F, surmonté d'une couronne de comte.
La revit-il ?
Jamais.
Alors il ignore si elle a recouvré la raison ?
Il l'ignore.
Mais, monseigneur, dit Jocelyn, cette jeune femme appartenait probablement à une puissante famille. Sa disparition et celle des cavaliers qui l'accompagnaient eussent dû être remarquées.
J'étais à la cour à cette époque, Jocelyn, et je n'ai jamais entendu parler de ce malheur.
C'est étrange.
Et que devint Marcof ? Que fit-il après avoir conduit sa protégée à l'hôpital des fous ?
Demanda la religieuse.
Il trouva à s'embarquer et revint en France. À cette époque, la guerre d'Amérique venait d'éclater. Marcof résolut d'aller combattre pour la cause de l'indépendance. C'est ici que commence la seconde partie de sa vie.
Mais cette seconde partie est tellement liée à mon existence, continua le marquis, que je vais cesser de lire, chère Julie, et que je vous raconterai.
Le marquis se recueillit quelques instants, puis il reprit. 6 ans après que Marcof eut quitté la Calabre, c'est-à-dire vers 1780, il y a bientôt 12 années, chère Julie, et vous devez d'autant mieux vous souvenir de cette date que cette année dont je vous parle fut celle de notre séparation. Je m'embarquai moi-même pour l'Amérique, où M. de Lafayette, mon ami, me fit l'accueil le plus cordial. Je n'entreprendrai pas de vous raconter ici l'odyssée des combats auxquels je pris part. Je vous dirai seulement qu'au commencement de 1783, me trouvant avec un parti de volontaires chargé d'explorer les frontières de la Virginie, nous tombâmes tout à coup dans une embuscade tendue habilement par les Anglais. Nous combattîmes avec acharnement. Blessé 2 fois, mais légèrement, je prenais à l'action une part que mes amis qualifièrent plus tard de glorieuse. Quand je me vis brusquement séparé des miens et entouré par une troupe d'ennemis, on me somma de me rendre. Ma réponse fut un coup de pistolet qui renversa l'insolent qui me demandait mon épée. Dès lors, il s'agissait de mourir bravement, et je me préparais à me faire des funérailles dignes de mes ancêtres. Bientôt, le nombre allait l'emporter. Mes blessures me faisaient cruellement souffrir. La perte de mon sang détruisait mes forces. Ma vue s'affaiblissait et mon bras devenait lourd. J'allais succomber quand une voix retentit soudain à mes oreilles et me cria en excellent français « Courage, mon gentilhomme, nous sommes 2 maintenant !» Alors, à travers le nuage qui descendait sur mes yeux, je distinguai un homme qu'à son agilité, à sa vigueur, à la force avec laquelle il frappait, je fus tenté de prendre pour un être surnaturel. Il me couvrit de son corps et reçut à la poitrine un coup de lance qui m'était destiné. Je poussai un cri. Lui, sans se soucier de son sang qui coulait à flots, ivre de poudre et de carnage, il était à la fois effrayant et admirable à contempler. Pendant 5 minutes, il soutint seul le choc des Anglais. Et 5 minutes, dans une bataille, sont plus longues que 5 années dans toute autre circonstance. Enfin, nos amis, qui avaient d'abord lâché pied, revinrent à la charge et nous délivrèrent. Après le combat, je cherchai partout mon généreux sauveur, mais je ne pus le découvrir. Transporté au poste des blessés, j'appris le lendemain qu'après s'être fait panser, il s'était élancé à la poursuite des Anglais. 6 mois après, chère Julie, au milieu d'un autre combat, et dans des circonstances à peu près semblables, je dus encore la vie au même homme, qui fut encore blessé pour moi. Cette fois, malheureusement, sa blessure était grave, et il lui fallut consentir à être transporté à l'ambulance. Le chirurgien qui le soigna demeura stupéfait en voyant ce corps sillonné par plus de 14 cicatrices. Une fièvre ardente s'empara du blessé et le tint 3 semaines entre la vie et la mort. Enfin, la vigueur de sa puissante nature triompha de la maladie. Il entra en convalescence. J'ignorais encore qui il était. Je lui avais prodigué mes soins,
et un jour qu'il essayait ses forces en s'appuyant sur mon bras, je tentai de l'interroger.
« Vous êtes français, lui dis-je, cela s'entend. Mais dans quelle partie de la France êtes-vous né ?»«
Je n'en sais rien, me répondit-il.
« Quoi, vous ignorez l'endroit de votre naissance ?»«
Absolument. »
« Et vos parents ?»«
Je ne les ai jamais connus. »
« Vous êtes orphelin ?»«
Je l'ignore. »
« Comment cela ?»«
Je suis un enfant perdu. »
« Alors, le nom que vous portez
est celui d'un brave homme qui a pris soin de mon enfance. »«
Et où avez-vous été élevé ?»«
En Bretagne. » »«
Dans quelle partie de la province ?»«
À Saint-Malo. »
« À Saint-Malo ? » m'écriai-je.
« Oui, me répondit-il.
Est-ce que vous-même vous seriez né dans cette ville ?»«
Non, je suis breton comme vous, mais je suis né à Locronan, dans le château de mes ancêtres. »
Puis, après un moment de silence, je repris avec une émotion que je pouvais à peine contenir.
« Vous m'avez dit que vous portiez le nom du brave homme qui vous avait élevé ? »
« Oui. »
« Quelle profession exerçait-il ? »
« Celle de pêcheur. »
« Et il se nommait ? » ?»«
Marcof le Malouin. »
En entendant prononcer ce nom, j'eus peine à retenir un cri, prêt à jaillir de ma poitrine. Mais cependant, je parvins à le retenir et à comprimer l'élan qui me poussait vers mon sauveur.